Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, dans l'hôpital à cœur ouvert, une présentation à trois voix. J'ai le plaisir de partager l'antenne avec Nadine Géraud, psychologue à l'hôpital de Bord, et Anis Fressange, aide-soignante en EHPAD et référente bien-traitance sur l'établissement. Bonjour Nadine, bonjour Anis.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors, un sujet éminemment d'actualité, la bien-traitance, et vous vouliez, Nadine, apporter une précision.
Oui, je voudrais juste souligner que les plannings des thématiques abordées dans le cadre de cette émission sont réalisés bien en amont de l'actualité concernant les EHPAD, mais nous pensions que c'était justement d'autant plus important de maintenir ce sujet délicat et primordial, notamment pour un établissement de santé.
Oui, vous avez tout à fait raison de le préciser. Alors, la bien-traitance est-elle seulement le contraire de la maltraitance ? Les mots ont une histoire et une mémoire. Le terme bien-traitance est une notion contemporaine qui est dorénavant au cœur des préoccupations des professionnels du champ sanitaire et social, du champ de la santé, du soin et des chercheurs. Alors, bien que l'on retrouve les notions d'éthique et de bien-traitance déjà dans la philosophie, il faudra attendre en France l'opération pouponnière déclenchée par Simone Veil dans les années 90 pour faire émerger le concept moderne de bien-traitance, opération qui visait à l'humanisation de l'accueil de très jeunes enfants. L'enjeu de ce concept était ainsi résumé, la bien-traitance, et c'était écrit en deux mots, je le précise, des plus vulnérables d'entre les siens et l'enjeu d'une société tout entière, un enjeu d'humanité. Alors, essayons maintenant de définir ce qu'est la bien-traitance dans le contexte actuel. Selon la HAS, Haute Autorité de Santé, la bien-traitance est une démarche globale dans la prise en charge du patient, de l'usager et de l'accueil de l'entourage visant à promouvoir le respect des droits et libertés du patient, de l'usager, son écoute et ses besoins, tout en prévenant donc la maltraitance.
Je pense qu'il est également important de revenir aussi à la notion de bienfaisance et cette idée d'une absence de tort fait à l'autre d'une part et surtout d'un équilibre à trouver au sein de nos pratiques entre ce qui apportera un bénéfice et ce qui causera du tort à l'usager. Donc c'est l'illustration de ce fameux primum non nocere, cette locution latine qui signifie d'abord ne pas nuire, qui est le premier principe de prudence appris aux étudiants en médecine, et principe qui s'inscrit dans ce triangle hippocratique médecin, malade, maladie, mais qui bien sûr peut s'appliquer à tous les professionnels du soin. Donc il s'agit en fait d'une double règle, faire le bien ou au moins ne pas faire le mal, ne pas nuire. Donc c'est à rapprocher du principe de non-malfaisance que l'on retrouve dans le domaine de l'éthique médicale et qui vient compléter ce concept de bien-traitance. Donc pour résumer, cette bien-traitance, elle se situe donc au niveau de l'intention des professionnels et consiste à aborder l'autre le plus fragile avec une attitude positive et avec le souci de faire le bien pour lui. Donc, pour reprendre une citation de Marie de Henzel dans son livre « Le souci de l'autre ».
Marie de Henzel est bien une psychologue qui a également beaucoup écrit sur les soins palliatifs.
C'est bien ça. Ouais.
Alors, la bien-traitance puise ses fondements dans la Déclaration des droits de l'homme et dans les différents textes législatifs, notamment dans la loi du 2 janvier 2002 et la loi du 4 mars 2002, une étape importante. Alors, concrètement, sur le terrain, comment se vit cette culture ancrée de bien-traitance auprès des professionnels et des usagers de l'établissement ? Il faut rappeler que c'est l'affaire de tous les professionnels engagés auprès des usagers.
En effet, est-ce que les valeurs du soin ne sont-elles pas à la base de toute motivation professionnelle dans le domaine du soin ?
C'est vrai. Les fondements de la bien-traitance sont les valeurs qui nous animent et guident nos actions.
Et oui, la bien-traitance interroge tout un chacun sur ses représentations. Quel regard porte-t-on sur les personnes âgées et vulnérables ? Et quelle représentation véhicule-t-on dans la société de la personne âgée, handicapée, malade, en fin de vie ? Cette thématique oblige chacun à travailler son implication personnelle et professionnelle dans le dispositif d'accompagnement et s'engager dans une réflexion sur le sens et la finalité de chaque acte de soin. Alors, comme l'actualité nous l'a malheureusement démontré, il est essentiel de faire vivre cette réflexion afin de limiter les risques qu'une logique économique puisse prévaloir un jour sur les valeurs du soin. La bientraitance est à la fois démarche positive et mémoire du risque. Alors, dans une démarche participative et pluridisciplinaire, donc afin de remettre l'usager au centre des préoccupations, le centre hospitalier de Bort-les-Orgues a formalisé son engagement au travers d'une politique de promotion de la bientraitance écrite et intégrée dans le projet d'établissement. Ces notions s'appliquent au travers de différentes instances. La bientraitance a d'ailleurs fait l'objet d'une évaluation spécifique par les experts de l'HAS lors de la visite de certification sur la partie sanitaire au mois de janvier 2022. Elle le sera également pour la certification à venir en EHPAD. Un comité bientraitance créé en 2007 se réunit régulièrement. Il est composé d'un groupe pluridisciplinaire avec deux agents ressources formés par l'ARS. Nous avons donc avec nous aujourd'hui Anis, qui est référente bientraitance et qui peut nous dire un petit mot sur cette formation.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une formation qui m'a bouleversée, qui m'a questionnée sur ma pratique. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Le soignant veut toujours bien faire, mais est-ce que cela correspond toujours au désir du résident ? L'essentiel est de replacer le résident, le patient, comme acteur, au centre des décisions. Cette formation a amené, au travers du questionnement, à aller plus loin et de partager avec mes collègues ce questionnement. Suite à cette formation, nous avons également retravaillé sur l'élaboration de la charte de bientraitance proposée en 2008 et portée à la connaissance de tous les professionnels qui intègrent l'établissement, qui s'engagent à avoir un comportement en adéquation avec les principes de la charte en signant une adhésion. Les thèmes abordés sont l'accueil, la qualité de vie et les soins, le cadre de vie, le rôle social, la famille, le respect et maintien de la dignité de la personne accueillie, et également les soins palliatifs et la fin de vie.
Alors, nous avons également une action par rapport au plan de formation continue annuel qui met en axe prioritaire la thématique de la bientraitance. Donc, Anis, tous les agents peuvent bénéficier de formation bientraitance.
Tout à fait.
Alors, nous pouvons parler également de l'organisation d'actions de sensibilisation. Je vais peut-être laisser la parole à Nadine.
Oui, alors notamment sur le centre hospitalier de Bort, en 2021, il y a eu deux conférences d'organiser sur le thème « La bientraitance est l'affaire de tous », qui était animée par Sabine Kaila, formatrice. Et puis, nous avons également une journée annuelle de sensibilisation à la bientraitance qui est organisée pour les professionnels sous forme d'ateliers. Comment, notamment, se mettre à la place de la personne âgée.
Ah oui, justement, Anis expliquait que c'était très intéressant parce que, par exemple, on pouvait revêtir un vêtement très lourd qui nous permettait de nous mettre à la place.
Effectivement, on vit leur vie pendant quelques instants. On se met à leur place, on se met des petits ateliers et on voit tout ce qu'ils vivent au quotidien.
Au quotidien.
Tout à fait.
Alors, cette bientraitance, elle se décline aussi de façon plus administrative dans le cadre de la gestion des risques. L'enjeu est la sensibilisation des agents à la déclaration de tous les événements dits indésirables afin qu'ils puissent faire l'objet d'actions correctives et contribuer à développer cette culture de bientraitance institutionnelle et sensibiliser donc à la prévention et le repérage des risques de maltraitance. Il faut préciser qu'il y a, en parallèle de la promotion de la bientraitance, la prévention de la maltraitance, car la vulnérabilité des personnes accueillies donc au sein de notre établissement appelle en contrepartie un devoir d'assistance et de protection.
Oui, du coup, je vais me permettre de rappeler la définition de l'Union européenne sur la vulnérabilité. Donc, les personnes vulnérables sont celles qui sont menacées dans leur autonomie, leur dignité ou leur intégrité physique ou psychique. La vulnérabilité peut donc résulter de l'âge, de la maladie, d'une déficience physique ou psychique, d'une infirmité ou par exemple également d'un état de grossesse. Ainsi, cette vulnérabilité peut être érigée en circonstance aggravante pour l'auteur de maltraitance.
Et on rappelle quand même qu'il s'agit de l'article 222-3 du Code pénal.
C'est ça.
Voilà. Alors, la bientraitance et la prévention de la maltraitance font partie intégrante de la démarche qualité de l'établissement. Et donc, elle est validée par le comité de direction. Alors, les familles et les représentants des usagers sont également partie prenante dans cette démarche de bientraitance au travers de deux instances qui sont le comité des usagers et le comité de vie sociale. Nous aurons l'occasion d'en parler plus longuement lors d'une prochaine émission. Ils sont les relais de la parole et de l'expérience des usagers et des résidents. Alors, c'est développer le mieux vivre ensemble dans le croisement des différents acteurs, usagers, familles, professionnels. C'est un cercle vertueux dans la transparence. Je vois, j'entends, je ressens. Alors, c'est notamment dans ces comités que peuvent être abordés des questionnements, comme par exemple dans une réflexion post-Covid. Il s'agit d'un contexte exceptionnel de pandémie où l'établissement a été amené à appliquer des directives gouvernementales. Comment, a posteriori, pouvons-nous nous questionner et anticiper de nouveaux aménagements possibles, plus respectueux du droit d'aller et venir, droit fondamental ? Anis, vous nous avez témoigné de vos difficultés en temps de Covid.
Oui, en effet, la barrière physique avec le masque et les distances induites par les gestes barrières avaient mis à mal les valeurs de mon soin et le sens du travail, de mon travail. Les gestes d'humanitude, une main sur l'épaule, pour les résidents que je connais depuis de nombreuses années et qui sont en demande, c'était la bise du soir au coucher. Toutes ces marques d'affection qu'il a fallu stopper du jour au lendemain pour les protéger, eux ne les comprenaient pas.
Et oui, c'est-à-dire que la distance que nous avions... L'obligation de mettre avec eux, en fait, était difficile à vivre pour eux et pour les soignants également.
Tout à fait, parce que ça fait partie du cœur du métier et voilà, tout à fait. Ouais.
Alors, c'est un vaste sujet du domaine de l'éthique. Et justement, comment concilier l'intérêt collectif avec les besoins individuels de nos résidents, de nos patients ? Donc, en soignant peut-être les conditions d'accueil des futurs résidents ?
Oui, alors effectivement, tout cela va passer par des réflexions pluridisciplinaires au sein de nos structures, notamment comment mettre en place une commission d'accueil, comment organiser des visites de préadmission pour préparer ce nouveau résident à l'organisation de la vie en collectivité, comment développer tout ce travail pluridisciplinaire, notamment concernant des projets de vie individualisés, comment les co-construire avec le futur usager, avec sa famille, autant de préoccupations qui vont tendre vers la bientraitance.
Alors, donc l'établissement lutte également activement pour la prévention de l'épuisement professionnel. C'est une notion qui est intégrée dans le document unique. Il intervient dans une politique organisationnelle cohérente, donc notamment en période de pandémie, où la surcharge de travail, l'absentéisme lié au Covid peuvent être des facteurs aggravants de maltraitance ordinaire ou institutionnelle. Exemple, faire à la place de faire, c'est pour aller plus vite parce que voilà, il y a moins de monde, on va faire à leur place au lieu de prendre le temps. Si nous avons choisi d'aborder cette thématique, c'est aussi qu'il nous paraît important de souligner qu'il s'agit d'un sujet sociétal, bien au-delà des murs du centre hospitalier. Ma déformation professionnelle de gestionnaire des risques m'amène toujours vers quelques statistiques. Et celles de l'Allemand en 2020 donc, sont quand même assez parlantes. Il faut savoir que 83% des victimes ont 60 ans et plus. 67% sont des femmes. 17% sont en situation de handicap. 75% vivent à leur domicile et 25% en établissement. Donc, il faut, c'est tout ça pour nous expliquer que... Pour vous expliquer, qu'il y a un épuisement des aidants, souvent à domicile. C'est vrai qu'on pense en fait à la maltraitance finalement en institution, mais il faut savoir qu'à domicile aussi, et c'est quelquefois compliqué pour la famille qui est épuisée, alors qu'en institution, on a la chance de travailler en équipe, d'avoir des relais, des temps de repos. Voilà, et c'est vrai qu'ils n'ont pas cette chance souvent à la maison. Donc normalement, l'APA prévoit un droit au répit, mais... Il existe trop peu de structures existantes, vous pouvez me le confirmer.
C'est bien ça. Je voudrais juste rajouter une petite parenthèse. Là, vous nous citez les chiffres de ALMA, donc ça correspond à Allo Maltraitance, qui est une plateforme d'écoute où l'on peut effectivement signaler si l'on est témoin ou si l'on a connaissance de maltraitance.
Ah oui, c'est vrai, vous avez tout à fait les raisons de le préciser. C'est vrai qu'on est habitué au terme court, on ne pense pas à le préciser. Donc, c'est le 3977, d'ailleurs, pour les joindre. Voilà, donc les maltraitances les plus fréquentes sont souvent d'ordre psychologique, avant même qu'elles soient d'ordre physique, il faut le savoir. Il est primordial quand même de rappeler que la question de la bientraitance concerne tout un chacun, notamment en tant que responsabilité individuelle de tout professionnel dans le cadre de l'exercice de son travail, mais également en tant que citoyen. Tout citoyen peut signaler des actes qualifiables de maltraitance physique ou psychologique sur des personnes vulnérables. Tout signalement peut se faire au choix aux autorités administratives, judiciaires ou médicales. Il existe un portail des signalements.gouv, Allo Alma, on en parlait à l'instant, une saisine par courrier ou sur le site internet du Défenseur des droits. Alors après, il y a un aspect donc, dont on entend parler notamment dans l'actualité. C'est vrai que pour les professionnels de santé, il existe une voie à suivre également en interne, une voie hiérarchique, une fiche de signalement interne de maltraitance remise aux supérieurs hiérarchiques, aux responsables qualité et gestion des risques qui font le lien avec la direction qui est là, à ce moment-là, est en mesure de décider des suites du signalement et d'une transmission éventuellement aux autorités compétentes. Voilà, donc ça va d'un classement sans suite à une sanction éventuellement disciplinaire, voire une suspension immédiate du professionnel.
Voilà, je vais juste me permettre de rappeler effectivement qu'il y a une obligation de signalement pour tout professionnel qui aurait connaissance ou qui serait témoin de situations de maltraitance.
Voilà. Alors justement, ça fait le lien avec ce comité bien-traitance. Un des objectifs de ce comité de bien-traitance est de mobiliser en permanence les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire en appui au développement des comportements bien-traitants. Alors, nous assistons à un profond changement de paradigme ces dernières années, avec aujourd'hui une vision plus autonomiste de l'individu, dans un respect de son pouvoir de décision, et quelle que soit sa pathologie, notamment pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques ou de maladies neurodégénératives. Donc, il appartient aux professionnels de se former, d'adapter l'information et le recueil donc, du consentement. Ces pratiques sont garantes du respect de chacun. Voilà, donc la société, on peut dire, a vraiment évolué et nous oblige en fait à s'adapter. Anis, vous avez fait une remarque qui était tout à fait intéressante sur l'hôpital de demain.
Oui, tout à fait. Au début de ma carrière, les résidents accueillis n'avaient pas les mêmes attentes que ceux d'aujourd'hui et que ceux de demain. À l'époque, quand j'ai commencé, la douche ne faisait pas partie de leurs habitudes de vie. Actuellement, certains résidents sont en demande d'une douche par semaine. Moi, je pense que plus tard, je voudrais plusieurs douches par semaine. Une douche ne me suffira pas.
Et oui, parce que nous sommes des générations où nous avons l'habitude d'avoir la douche quotidienne et forcément, ça se transposera sur nos habitudes, même lorsque nous serons en institution. Voilà, il faudra que les choses évoluent en ce sens.
Et d'où l'importance vraiment d'individualiser ces prises en charge et de coller aux besoins de chaque individu.
Oui, on me dira jamais assez. Voilà, donc on pourrait vraiment en dire beaucoup et nous pourrons reparler de cette thématique. Mais là, je vous remercie énormément pour ces échanges riches en enseignements. Et nous pouvons terminer par deux citations avant notre pause musicale. Donc, le simple fait d'avoir mis au monde le mot bien-traitance, de chercher à le comprendre et à le faire vivre, témoigne d'une attitude non dogmatique et pragmatique. Alors faisons le vœu qu'on traite bien la bientraitance. C'est une maxime de Boris Cyrulnik, donc qui date de 2006. C'est la bienveillance et le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir, de Mark Twain. Au revoir à tous et à bientôt pour notre prochain rendez-vous. Au revoir.
Au revoir.